Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Cette semaine, les GG, ce qui a attiré mon attention, c'est l'ambiance de feu qu'on nous avait vendue à la Ryder Cup de golf. C'était le moment pour la placer. Les États-Unis reçoivent l'Europe près de New York, donc cette année à Farmingdale, pour être tout à fait précis. L'atmosphère a été annoncée compliquée pour les Européens. Au milieu du public américain, on avait parlé de chambrage, de crachats, d'insultes, de jets de bière. On est d'accord qu'au final, c'est pas tout à fait ça.
Les insultes, il y en a. Les crachats, non. Puis, de toute façon, aux États-Unis, tu dois comporter correctement dans les enceintes sportives, sinon.
Mais parfois, la Ryder Cup, c'est ça. En tout cas, des ambiances comme cela. Donc, les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de tout ceci. Vous avez tous vécu de grandes épreuves dans des ambiances hostiles, en Coupe Davis, en rugby et en judo. Comment affronter cela? Denis, tiens, ambiance hostile dans le rugby. Comment tu faisais?
Plutôt en France. Plutôt moins à l'étranger. Alors après,
Du côté de Perpignan, par exemple.
Perpignan, oui. J'ai quelques anecdotes du côté de Perpignan. Et c'est public show, oui. En plus, moi, j'ai joué avec Vincent, Simon Moscato, Simon Jambert, avec le Stade français. Puis là, ça avait quand même un peu dégoupillé, si tu veux, devant.
Mais donc, tu te préparais à
l'hostilité? Non, et puis. Plus sur le terrain que dans les tribunes.
Oui, mais si, non, c'était un peu.
C'était l'environnement?
C'était la fusion entre le terrain et là-bas, c'est fusionnel. Mais Vincent, il me disait, il y avait des coups qui partaient de partout. Je dis, Vincent, on va arrêter là quand même. Il se retourne vers moi, il me dit, tu veux gagner ou tu veux perdre? Et là, ça a dégénéré. Et puis après, ça a fini sous la tribune, tu vois, dans le couloir, où la bagarre générale. Bon, moi, j'étais loin de la bagarre.
Hein. Ça m'étonne pas.
Je te rassure. Mais là, c'était chaud quand même. C'était chaud.
Mais tu te préparais à ça quand t'allais dans un stade aussi, t'as parlé de Perpignan.
Non, tu sais pas. Tu te prépares pas à ça. Et puis moi, j'ai jamais trop aimé ça. Voilà. La vérité, c'est que je trouve ça. Ben, je trouve que quand ça déborde, ça va si loin,
T'as jamais participé à une finale, voilà.
J'ai pas participé. Non, mais le rugby, tout ça, il y a quand même une forme de respect. Et là, il y avait pas trop de respect ce jour-là, quoi.
Voilà. T'as envie de sortir les valeurs de l'Ovalie.
Oui, les valeurs, non, mais. Voilà. Mais, non, c'est pas un bon souvenir pour moi.
Julien. Comment affronter une ambiance hostile?
Ouais, pour revenir un peu plus sur ce que tu demandes. Nous, on a joué, surtout la Coupe Davis, la grande Coupe Davis, la vraie, pas celle d'aujourd'hui, où on jouait dans des très belles ambiances. Hostile ou, j'ai pas envie de dire hostile, c'est des très belles ambiances. Moi, j'ai joué en Argentine, devant 12-13 000 personnes. On avait rarement vu ça. On avait les chants des supporters argentins qui rentraient dans nos têtes le soir. C'était compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué à gérer, c'est le fait que ça galvanise ton adversaire quand tu joues à l'extérieur.
Tu peux t'en nourrir aussi, toi.
Exactement. Donc nous, on se recentre sur nous, sur comment on doit gérer ça. Essayer d'éteindre ce public par les performances. Sans vouloir faire un running gang, mais sur la Ryder Cup, non, mais c'est vrai, c'est quelque chose dont qu'ils ont préparé énormément, le staff avec les joueurs, comment appréhender cette ambiance et justement dans la stratégie du capitaine, de savoir de mettre quel joueur à quel moment pour essayer d'éteindre le public américain. C'est une vraie stratégie pour qu'il y ait un impact sportif et qu'il y ait un impact sur le public. Et nous, sur la Coupe Davis, c'est d'essayer de justement d'éteindre un petit peu ce public hostile pour pas qu'il galvanise l'équipe adverse par ta performance. Et la finale à Belgrade en 2010, je me souviens, ça c'était...
J'y étais moi aussi.
Voilà, 17 000, 18 000 personnes, c'était une ambiance incroyable. Et il y avait Claude Onesta qui était venu nous parler avant de partir. Parce qu'à ce moment-là, eux, ils avaient été champions du monde en Croatie
contre
Zagreb. Et je me souviens, Onesta, il avait dit, il va falloir que tout le bruit, toute l'ambiance, tout le décorum, etc., il va falloir que ça glisse sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit...
Est-ce que ça a vraiment glissé sur vous?
Si,
je vais te donner mon expérience de ce match-là.
Ouais.
Donc, vous gagnez le double, vous mettez 2-1 le samedi soir. Ensuite,
Djoko bat
Gaël.
Ouais.
Mon fils.
Et donc on est à deux partout.
Deux de partout, oui. Les derniers matchs, c'est...
Moi je me souviens de Djoko haranguant la foule en serbo-croate. On n'a pas compris ce qu'il disait, mais a priori c'était pas très aimable.
Très sympa.
Des Français.
À la fin du match, exactement.
Et Mika, derrière, il a pris la pression dans la figure.
Évidemment.
Il jouait contre Troïki, je crois, c'est ça, qui était à sa portée.
Évidemment que c'est... Que tu arrives à 2-2, simple décisif pour gagner la Coupe Davis devant 18 000 Serbes en Serbie, c'est violent. C'est très, très violent. C'est l'avantage de jouer à domicile à ce moment-là, il est incroyable.
Mais votre sport, c'est un sport vraiment de concentration extrême.
Ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui est, comment dire, et pour l'avoir vécu dans l'autre sens, quand tu joues en France ou quand tu joues à Roland-Garros, etc., en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand tu joues devant un public aussi fervent, quand tu réussis un coup, quand tu breaks, le public devient... Ça te porte, ça te galvanise. Et donc derrière, quand tu peux être un peu plus audacieux, tu peux aller chercher... Et quand tu fais un coup gagnant et que tu as 15 000 personnes qui hurlent avec toi, mais ça te donne
Gerland, lors de la finale, exactement, c'est transcendé,
un
les mecs,
boost d'énergie. Ouais. Et je finirai là-dessus, après David donnera son expérience. On a joué aussi contre Nadal dans les arènes à Cordoue devant 15 000 personnes. Incroyable. Les vraies arènes, la Plaza des Toros de la ville. Les gens là, pendant le point, quand Nadal prenait l'échange en cours, vous savez, avec son coup droit et qu'il hurle à la frappe, lui, il crie à la frappe avec son coup droit. Et là, il faisait un premier coup droit où il hurlait et il faisait le point en faisant 3-4 coups droits et le quatrième, en général, il était décisif. Et là, les gens, pendant le point, ils hurlaient avec Nadal au moment de la frappe. Pendant le point.
Mais la question, c'est à quel point ça avait une influence sur vous et à quel point vous étiez préparé à ça.
Nadal, on est préparé, on est des sportifs de haut niveau, on peut pas se cacher, on sait quand tu vas jouer en Serbie, tu sais que tu vas prendre la foudre, voilà. Mais c'était incroyable et c'est galvanisant.
Non, mais il y a des joueurs qui absorbent davantage la pression que d'autres, tout simplement.
Bien sûr,
aussi. Ça dépend du joueur, de la personnalité du joueur.
Comment affronter une ambiance hostile, c'est la question du vestiaire des grandes gueules du sport aujourd'hui. Toi, tu l'absorbais la pression, David? Hostile.
Oui. Alors il y a différents cas de figure. T'as la pression avec beaucoup de bruit, puis t'as la pression sans bruit. Ouais. C'est assez étonnant, c'est assez paradoxal. Parce que quand tu te retrouves au Japon sur un championnat du monde et que il y a énormément de bruit quand il y a un athlète japonais qui monte sur le tapis, etc. Toi t'es face à lui et puis d'un seul coup tu commences à prendre une ascendante, tu commences à marquer un point d'avance, etc., etc. Le bruit s'amenuise un peu, puis d'un seul coup, pouf, il y a plus rien. Et là, t'as un silence, tu vois, de mort. Et quand tu gagnes, t'entends 10 personnes qui est le staff de l'équipe de France qui hurle de joie. Et le reste, un bruit assourdissant.
Silence assourdissant.
Mais c'est la culture japonaise, ça, plutôt.
Ça vient de la culture japonaise, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont très, très excités. Puis, dès que ça commence à tourner vinaigre, pour eux, d'un seul coup, pouf, il y a une espèce de mutisme. Et alors, ce bruit qui n'existe plus est aussi assez assourdissant pour ton adversaire. Parce que lui, il a l'effervescence du début, etc., etc. Puis d'un seul coup, non seulement quand il tourne le museau vers le tableau de marquage et qu'il visualise qu'il est mené, et qu'en plus il y a moins en moins de bruit, je peux te dire que ça pèse sur ses propres épaules, tu vois. Et toi, ça te galvanise aussi, tu vois. C'est assez marrant comme processus qui est un petit peu différent que dans d'autres disciplines.
Je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, c'est plus difficile pour les sports individuels que le sport collectif, il me semble.
L'ambiance hostile, t'as des
petits camarades à côté, t'as quand même un effet collectif qui fait qu'à un moment donné tu peux te reposer sur ton partenaire. Si t'es pas bien, tu vois, si à un moment donné tu sors de ta concentration du match, parce que parfois tu peux sortir d'un match parce que tu vas louper quelque chose, tu vois. Ça arrive, et puis ça peut arriver à cause du public, parce qu'à un moment donné s'enflamme le public.
D'une insulte, des huées,
ça galvanise aussi. Mais je sais que par exemple Vincent Moscato, il s'en nourrissait beaucoup. Il adorait ça, parce que bon.
Pas trop.
Oui, parfois trop, mais il s'en nourrissait, et puis ça le rendait peut-être plus fort, mais meilleur. Donc il aimait bien.
Ça dépend des caractères.
Ça dépend des caractères. Il aimait bien ces terroirs hostiles comme à Mayol, où on se souvient d'un match dantesque entre Toulon et le Bègles Bordeaux, où ça avait été terrible.
Toi, moins.
Moi, à Mayol, moins, mais j'ai joué à Mayol, mais c'est vrai que c'est des terres hostiles, tu peux pas te dire le contraire.
T'arrivais à moins t'exprimer dans une ambiance hostile?
Non, t'étais obligé de te préparer différemment, en fait. Suivant le stade où t'allais jouer. T'allais à Mayol, mais tu savais que bon, il fallait pas que tu penses à autre chose que ce que t'allais faire. Et le préparer en amont.
Il y a des endroits qui sont connus pour ça.
Oui, bien sûr.
Quand Mayol, les joueurs traversent.
L'USAP, oui.
Voilà, l'USAP, c'est pareil, etc.
Bastia.
Non, mais pour revenir sur ce que disait David, sur le silence. Et la pression, parfois, liée au silence, ou la tension que ça importe. Au rugby, quand parfois, tout d'un coup, il y a un coup de pied hyper important, et là, tu sens le stade parce que les gens sont tendus.
Tu sens la pression.
Incroyable. Ouais,
c'est terrible.
Au tennis, tu peux avoir entre les points une clameur, et puis les gens savent que c'est un moment hyper important.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, avant de servir, paf, plus un bruit.
Et alors tu as une tension à vaincre l'ambiance hostile. Tu sais qu'à un moment on peut vaincre l'ambiance hostile.
Je sais pas.
C'est
que ce silence-là.
C'est plus impressionnant que.
Et de temps en temps, voilà. Et il y a.
Moi, je trouve qu'il
y a un endroit qui est incroyable pour ça, c'est le central de Wimbledon. Quand tu joues dessus, tu arrives sur le terrain, tu as les 5 minutes d'échauffement là, et les gens sont devant le public, ça parle, il y a une sorte de brouhaha.
Et tout d'un coup, ça arrête.
Premier point du match.
Silence absolu.
Mais
c'est plus difficile à gérer.
Cathédrale. Je te jure, cathédrale. Premier point du match, tout d'un coup, quand il y a un arbitre qui fait « ready, play », et là, les 15 000 Anglais, pouf, il n'y a plus rien. Et là, t'es là, « ah ouais, d'accord, bon, là, il faut y aller ». Je suis en train de Wimbledon.
Oui, et tu sais que tout le monde te regarde.
Comment
affronter une ambiance hostile, David, dans le vestiaire ?
Je trouve que c'est plus difficile à gérer ce que décrivait Bennett, là, parce que t'as toujours un bruit de fond dans un stade, qui soit plus ou moins élevé, etc. Ouais. T'as un bruit de fond, toi. Ouais. Et quand t'as plus de bruit du tout, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Parce que le bruit de fond, les clameurs, etc., etc., à un moment donné, tu t'es protégé, t'as mis ta bulle, etc., tu t'es bouché les oreilles, voire même tu t'en nourris. Ça, c'est facile. C'est assez simple. Mais alors, quand il n'y a plus de bruit, pof! Là, tu te dis, wow! Tu t'entends même, toi, quand tu te déplaces. Toi, t'entends tes gestes, tes propres gestes. Ce qui n'arrive pas, normalement. Et là, tu peux être déstabilisé. À mon avis, le silence est plus compliqué à gérer que la clameur, les insultes et le reste.
Moi, j'ai vécu avec l'opposé, en fait. Parce que trois finales de champion de France au Parc des Princes. Trois finales. Et là, tu n'as pas un silence de 90 minutes. C'est-à-dire que tu peux pas t'entendre, tu peux pas te parler à 10 mètres. Ça m'est arrivé trois fois. Et là, c'est une violence terrible. C'est-à-dire que c'est un autre contexte, tu le vis jamais les dimanches en top 14, ça tu le vis pas. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves en finale, et le Parc des Princes est sur toi, il y a 50 000 personnes qui sont. Le brouhaha, il est terrible.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on a dévié sur le bruit et le silence finalement sur l'impact.
Oui. Non mais je parle de ça parce que j'ai des souvenirs de finale et là il faut que tu sois dans une concentration maximale plus que pour une demi-finale ou normal.
Alors David, après si je veux revenir sur un truc aussi un peu incroyable, c'est un stade qui se vide parce que moi ça m'est arrivé. Tu vois, j'étais en Géorgie, dans un stade, une arène, il y avait plus de 10 000 mecs, que des mecs, avec des moustaches, des bacchantes qui retombent comme ça, et tous des bérets noirs, les Géorgiens, je vous parle de ça, j'avais 20 piges, et d'un seul coup, ils viennent juste, ils connaissent pas grand chose au judo, mais ils viennent voir le Géorgien. Et à l'époque, je vous parle d'une autre époque, celle de Christophe Cessieux, on dit c'était à l'époque de l'URSS.
J'avais aussi un béret et des grosses moustaches.
Voilà, et ça te va pas mal d'ailleurs, et ça te va pas mal. Et alors, les Géorgiens ne pouvaient pas piffer les Russes, mais ils étaient tous sous le giron de l'URSS. Ça, ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Et donc, quand il y avait un Géorgien, et les Géorgiens dans ma catégorie à cette époque-là étaient très forts, qui battaient un Russe, ça devenait, c'était l'exploit de la compétition. Et donc, ils étaient là. Moi, je rencontrais un Géorgien en premier tour, le plus fort.
J'avais quoi, 20 piges.
Ouais, j'étais à peine pubère, tu vois, j'étais tout frêle, etc. Et là, miracle, je bats le Géorgien. Le stade s'est vidé. Il n'y avait plus personne. Ils sont partis. Après, moi, je rencontrais le Russe. J'ai pris une ratatouille face au Russe, d'ailleurs. Mais le stade s'est vidé. Il n'y avait plus personne. Et là, je peux te dire que ça fait bizarre, quoi. Parce que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voire même, j'avais une espèce de culpabilité d'avoir battu le géorgien, d'avoir rendu 10 000 mecs tristes. Et en plus, derrière, j'avais même pas pu continuer. J'avais même pas pu sauver l'honneur parce que je m'étais fait battre face aux Russes. Donc, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est assez compliqué. Et j'avoue que quand j'ai combattu face aux Russes dans un stade vide, ben, ça m'a perturbé un peu parce que je pensais à ça. Voilà. Ah oui. Ça m'a apporté une autre pression. Ouais, ouais, vraiment.
C'est-à-dire qu'en rentrant sur le tatami, t'as pris conscience de l'endroit où tu étais, quoi.
Et puis de l'importance du premier combat qui était important parce que c'était le tenant du titre en plus ce géorgien et le fait d'y plus y avoir personne etc. Je me dis waouh, il faut que je batte sur lui, ça m'a mis une pression supplémentaire que j'ai. Bon, j'étais jeune, j'ai pas su formaliser par une victoire, mais enfin voilà, j'ai perdu quoi.
Vous avez jamais joué avec le public adverse d'ailleurs, les gars? Vous avez jamais essayé de dire chut? Parce que ça c'est le truc à double tranchant aussi, ouais, avec un public hostile.
Moi c'est pas en Coupe Davis.
Djokovic le fait beaucoup par exemple face à un public hostile.
Ouais, mais
faut être capable de le faire.
Il faut être capable de le faire, mais plutôt sur des tournois où de temps en temps par exemple quand tu joues à Miami et que tu joues un Sud-Américain. Il y a quand même beaucoup, que tu joues un Brésilien ou un Colombien ou un Argentin, il y a beaucoup de public là-bas. Et donc, quand tu joues sur un petit court, là, l'ambiance, elle est chaude.
Et je crois que le pire en matière d'ambiance en Coupe Davis, ça avait été un match entre la France et le Paraguay.
Ah oui, dans les années 80, 85, 86. Là, c'était très dangereux. C'était très dangereux. Ils ont perdu. Victor Pecci, c'était le joueur paraguayen. Ils se sont fait jeter des pièces, des choses comme ça sur dans la salle.
On peut dire que c'était hostile. Ouais.
Non, là, c'était, en plus, c'était très, très dangereux.
Mais on va sur les petits cours, là. Tu disais les petits cours.
Là, effectivement, de temps en temps, tu joues pour toi déjà. C'est un tournoi individuel, tu joues pour toi. Donc, tu peux être un petit peu agacé. Et là, tu peux, avec la proximité, calmer un peu le public en parlant avec eux, en faisant des signes avec eux, etc.
Tu sais que t'es moins télévisé aussi?
Non, mais ça, c'est... Moi, oui, peut-être, mais côté télévisuel, non. C'est juste que côté proximité et le fait que c'est individuel et que tu joues pas en équipe et que tu joues pas pour la France, où là... Quand tu fais ça, si t'es au milieu de la salle en Serbie, là, devant 18 000, que tu fais une volée amortie fantastique, et que là, t'es au milieu du cours, et que tu les regardes, et que tu fais comme ça, ou tu fais comme ça, je peux te dire que le premier point que tu perds derrière, déjà pour servir, tu peux pas servir, les mecs vont hurler, et derrière, t'as intérêt à assurer. Et d'ailleurs, les capitaines, que ce soit Guy ou les autres capitaines que j'ai eus,
surtout disais, pas jouer de la provoque.
Évidemment.
Ouais. Ah oui.
Évidemment, c'est pas provoqué. Les publics hostiles, les publics où tu sais dans les pays dans lesquels tu vas où ça peut être hostile, ne jamais les provoquer.
Moi, je pense que un joueur comme McEnroe s'en nourrissait
bien sûr.
C'était un carburant de dingue, tu vois. C'est les souvenirs qu'il nous a laissés là-dessus avec ses prises de gueule, sa mauvaise foi, etc., etc. C'était un carburant de fou. Et moi, j'avoue très humblement, hein, évidemment, j'étais pas du tout comme lui, mais que quand ça gueulait, quand c'était contre moi, j'adorais ça.
Ah ouais, j'adorais ça. Mais quand t'étais sur le tatami, tu l'entendais? Tu l'entendais?
Ah oui, mais bien sûr.
Parfois, certains d'entre vous vous dites, oh non, quand on est sur le terrain, on entend rien.
Non, mais tu l'entends pas quand t'es en action, mais avant de monter, tu l'entends. Tu sens que ça monte, ça gronde, etc., etc. Et tu dis, ouais, vous allez voir mes cocos, là. Dans deux minutes, vous allez tous la fermer, là, tu vois. C'est ça qui te, c'est génial. C'est un vrai moteur.